Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. C'est elle qui a lancé le mouvement Balance ton porc et elle est au tribunal, accusée de diffamation par l'homme qui lui faisait des propositions sexuelles plus que graveleuses dans un message. Il dit avoir perdu proches et travail avec son nom sur les réseaux. Le retour du panneau 80 km/h dans le débat pour expliquer la baisse du nombre de morts sur les routes. Chiffre jamais vu pour la sécurité routière. Au sommaire également ce soir, la banlieue avant les Jeux, la liaison Charles de Gaulle Express reporté à fin 2025, le riad des Balkany à Marrakech, Patrick se fâche contre le promoteur saoudien, vous verrez ça, le procureur Mueller qui parle pour la première fois, l'affaire est close, dit Trump, le foot tricolore à la même table ce soir à Clairefontaine, hommes et femmes, une première, et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, et si le périphérique parisien et toutes les autoroutes urbaines en fait devenaient des boulevards urbains, peut-on revoir intégralement ces pans de route construites pendant les 30 Glorieuses quand la voiture était reine? Aujourd'hui, les préoccupations de pollution, de fluidité changent la donne, mais peut-on faire disparaître ou au moins intégralement réaménager ces espaces routiers en espaces urbains? Parlons-en ensemble au 01 45 24 7000.
C'était en octobre 2017, juste après l'affaire Weinstein aux États-Unis. La journaliste Sandra Mueller lançait le hashtag Balance ton porc sur Twitter et elle demandait des récits de harcèlement sexuel au travail avec nom et détails. Puis elle citait dans un autre message celui qu'elle avait reçu d'Éric Brion, ancien patron de la chaîne Equidia. 7 mois après, elle est jugée pour diffamation. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Elle dénonce le manque de décence de son accusateur qui lui dément tout harcèlement.
D'une voix blanche et le rouge aux joues, Éric Brion raconte à la barre la descente aux enfers qui a suivi le tweet de Sandra Mueller. Sa compagne l'a quitté, il a fait une dépression, il ne travaille quasiment plus. « Je suis devenu un paria dans mon milieu », lâche-t-il, avant de décrire la violence absolue de ceux qui, sur les réseaux sociaux, vous insultent sans que vous n'ayez la possibilité de vous défendre. Oui, Balance ton porc est un phénomène superbe, lance l'un de ses avocats, mais à côté de ça, il y a eu de la calomnie. Éric Brion a été comparé à Harvey Weinstein, à un prédateur sexuel. Or, il ne s'agit ici, dit-il, que de drague, sans violence, sans pression, en aucun cas de harcèlement sexuel. D'après lui, Sandra Mueller aurait d'ailleurs écrit ce tweet pour se venger parce qu'il ne s'était pas abonné à la lettre de l'audiovisuel dont elle dirige la publication. La partie adverse, elle, rappelle qu'Éric Brion a publiquement reconnu avoir tenu ses propos, propos vécus par la journaliste comme une agression, comme une offense. Les avocats notent que l'ex-patron d'Equidia n'a eu lors de son intervention devant le tribunal aucun mot, aucun regard pour leur client. À la sortie de l'audience, Sandra Mueller, elle déplore une inversion des rôles.
Maintenant, le prédateur devient la proie devient le prédateur. Donc c'est moi la méchante, c'est lui le gentil. Passer pour les vilaines sorcières, ça commence à bien faire.
Elle affirme n'avoir pas eu l'intention de nuire, seulement de pousser un cri de colère. Le tribunal rendra sa décision le 25 septembre.
Laurélie Carrive en direct du Palais de Justice de Paris. Sandra Mueller a fait partie des briseuses de silence désignées personnalité de l'année. C'était en 2017 par le magazine américain Time.
Voilà un chiffre très attendu qui devrait faire beaucoup parler.
Celui du nombre de morts sur les routes après le passage de 90 à 80 sur les routes secondaires. L'une des causes du mouvement des Gilets jaunes. Ce chiffre est encore en baisse l'an dernier. 3488 tués, c'est du jamais vu dans l'histoire de la sécurité routière. Bonsoir Mathilde Dehimi.
Bonsoir Sébastien.
Elle met en avant notamment les 80 km/h.
Ah oui, il y a bien un effet 80 km/h et cet effet a été terni par la destruction des radars en fin d'année, explique la sécurité routière. Dans le concret, le nombre de morts a baissé de 5% l'an dernier par rapport à 2017, 3500 morts environ, le plus souvent en voiture, le plus souvent conduite par des hommes. Point positif, les jeunes sont un peu plus prudent que les années précédentes. La vitesse reste la première cause de mortalité, notamment sur les axes hors agglomération, 2/3 des accidents mortels, l'un des pires chiffres européens. Et c'est justement sur ces axes que la vitesse est passée à 80 km/h au 1er juillet. La sécurité routière assure que l'abaissement de la vitesse a permis de sauver 127 vies, chiffre issu de la comparaison des mêmes périodes ces 5 dernières années. Et cela aurait pu, cela aurait dû être plus, dit Emmanuel Barbe, le délégué interministériel, car dès novembre, certains automobilistes ont de nouveau appuyé sur le champignon après la destruction de ces radars. Le nombre de morts sur les routes est reparti en hausse au premier trimestre de cette année, avant une baisse en avril pour les automobilistes.
Des routes au rail, merci Mathilde, avec cette annonce qui concerne des millions de franciliens. La liaison Charles de Gaulle Express est donc reportée à fin 2025. La future ligne qui doit relier la gare de l'Est à Paris au terminal 2 de l'aéroport de Roissy en 20 minutes ne sera donc pas prête pour les Jeux Olympiques Olympiques de 2024. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
La ministre des Transports met en avant l'impact des travaux pour les banlieusards.
Des travaux titanesques alors qu'une quinzaine de chantiers de modernisation sont déjà prévus sur le réseau ferré au nord de Paris dans les prochaines années. En reconnaissant que l'on ne peut pas faire subir ça aux 900 000 voyageurs quotidiens du RERB, eh bien le gouvernement se range à l'avis des élus franciliens. Grégoire de Lastérie, délégué Nouvelle Mobilité à la région Île-de-France, s'en félicite, mais tout n'est pas réglé.
On reste vigilant parce que des questions sont encore en suspens. Bien préciser la sanctuarisation des transports du quotidien durant les heures de pointe, la nécessité de limiter au maximum les interruptions de circulation en début de soirée et de week-end, et évidemment bien faire passer d'abord les travaux du RERB avant les travaux du Charles de Gaulle Express.
RERB sur lequel il faudra compter pendant les Jeux Olympiques. La région promet de renforcer le trafic à l'été 2024, mais les opposants au concept même de CGG Express, élus de gauche en Seine-Saint-Denis et usagers, trouvent un goût amer à ce report. Arnaud Bertrand préside l'association Plus de Trains.
C'est une combine. Ils nous ont créé un scénario 1 qui aurait fait un carnage. Et donc là, ils viennent nous dire oh « bah super, regardez, on pense aux usagers, on fait le scénario 2 ». Non, on a étalé un peu les travaux, mais une fois que le CDG Express aura ouvert, on aura toujours des difficultés pour le RERB. C'est ce que les usagers vont subir.
Autre conséquence de ce report, un surcoût d'une centaine de millions d'euros pour une ligne dont la construction est déjà estimée à près de 2 milliards.
Faustine Calmel, il s'interpelle sans s'entendre vraiment, syndicats et gouvernements, après l'annonce de plus d'un millier de suppressions de postes chez General Electric à Belfort, on en parlait hier soir. L'intersyndicale demande à Bruno Le Maire de stopper ce qu'elle qualifie de scandale et de carnage. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher explique que le gouvernement attend du groupe américain qu'il soit exemplaire à Belfort et elle assure qu'il sera très exigeant. Voilà en tout cas un nouveau revers pour l'exécutif avec le redressement judiciaire du repreneur de l'usine Whirlpool, d'Amiens, et des motifs à critique, François Rosy, dans les couloirs de l'Assemblée.
Le premier à dégainer, c'est François Ruffin, le député insoumis de la Somme. Très concerné par le sort du repreneur de l'usine Whirlpool d'Amiens dans sa circonscription, il en appelle directement au président de la République qui s'était rendu sur le site lors de la campagne de 2017.
Je demande que Macron revienne, parce qu'il a une responsabilité. Il a une responsabilité, c'est la promesse qu'il a tenue devant tous les salariés. Eh bien, je veux qu'il revienne un an et demi plus tard et qu'il nous dise... Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ?
Selon le député La République En Marche de la Vienne, Sacha Houlier, le gouvernement fait déjà beaucoup pour sauver ce qui peut l'être à Belfort, chez General Electric et sur le site Whirlpool d'Amiens. Il va même encore plus loin.
L'emploi industriel en France, on est en train de recréer. Et c'est la première fois qu'on le fait depuis 10 ans, comme c'est la première fois depuis 10 ans qu'on arrive à ce taux de chômage qui est de 8,6, 8,7 et de 19% chez les jeunes alors qu'on était à 23 il y a encore 18 mois.
De son côté, le député Les Républicains Yann Boucard ne crie pas avec les loups mais reste vigilant, d'autant qu'il connaît bien le dossier General Electric en tant qu'élu du territoire de Belfort.
On travaille ensemble, moi je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'on fait pour mon territoire. Je peux pas ne pas travailler avec le gouvernement sur ce dossier-là. On dialogue avec Bruno Le Maire de manière constante, il faut d'ailleurs que ça continue, mais maintenant il faut qu'on passe des paroles, qu'on passe des déclarations d'intention aux actes très concrets pour pas laisser ces personnes sur le carreau.
Interpellé lors des questions au gouvernement sur ces échecs industriels, le ministre Bruno Le Maire a annoncé qu'il se rendrait la semaine prochaine à Belfort pour rencontrer les syndicats de General Electric.
Et toujours à l'Assemblée, les députés d'opposition ont boycotté les débats sur la réforme du règlement du Palais Bourbon aujourd'hui, qui prévoit de limiter leur temps de parole dans l'hémicycle. L'acte 2 du quinquennat, ce sera dans deux semaines, discours de politique générale d'Édouard Philippe le 12 juin, puis vote de confiance sans enjeu avec plus de 350 députés de la majorité sur 577. Quant à Emmanuel Macron, il ne prendra pas la parole devant le Parlement réuni en congrès en juin, mais plus tard, dit la porte-parole du gouvernement, sans préciser quand. Lui tire les conséquences du scrutin européen et de son score, 0,65% des voix. Le président des Patriotes, Florian Philippot, va réintégrer la fonction publique. L'ancien vice-président du Front National était en disponibilité de l'administration depuis son arrivée au front. Son score aux européennes ne lui permet pas d'être remboursé des frais de campagne qu'il a même payé sur ses propres deniers.
Après Giverny et Saint-Martin, voyage au Maroc au procès Balkany.
La palmeraie de Marrakech, où se trouve le riad de 1200 mètres carrés, dont le maire de Levallois et sa femme jurent qu'ils ne sont pas propriétaires. Les peignoirs portent pourtant les initiales de Patrick Sarah-Guibaudot, mais l'achat est caché derrière un montage financier complexe dans lequel on trouve un investisseur saoudien.
Le Riyad a été acheté avec l'argent du promoteur saoudien, alors la défense des Balkany est simple. La villa où il partait en week-end appartient à Mohamed Al-Jaber, le milliardaire qui voulait construire des tours à Levallois. L'ancien bras droit de Patrick Balkany, Jean-Pierre Aubry, passe un mauvais moment à la barre. Les sociétés écrans sont à son nom, il s'est occupé de l'achat, mais à titre amical pour Al-Jaber, maintient cet ancien basketteur. D'amitié, il n'est pas question pour le saoudien, qui s'exprime en anglais avec un fort accent. Quand je voyais Monsieur Aubry au réunion avec les Balkany, je pensais que c'était le garde du corps, dit-il. J'ai 150 sociétés, des maisons dans 8 pays, un château près de Paris, mais tout est à mon nom et si j'ai besoin d'aide à Marrakech, j'appelle le Palais Royal, Hassen Al-Jaber. Patrick Balkany s'enflamme. Quand on se vante d'avoir des propriétés partout et qu'on ne paye pas ses dettes, selon lui, le Saoudien aurait laissé une ardoise à Levallois quand le projet des tours a capoté. C'est un escroc, crie Patrick Balkany. Et vous, vous êtes quoi ? L'enservé Temim, l'avocat d'Al-Jaber. Le président demande le calme et conclut qu'entre ces deux versions contradictoires, il y a quelqu'un qui ment.
Sarah Guibaudot, elle conteste toute faute et met en avant la protection des sources. Ariane Chemin, la journaliste du Monde convoquée aujourd'hui par la DGSI pour avoir révélé l'identité d'un membre des forces spéciales dans ses articles sur l'affaire Benalla. Elle sera demain à 7h50 sur Inter avec Benoît Colomba de Radio France.
C'est lui qui a le plus empoisonné la présidence Trump.
Le procureur spécial Mueller et sa gigantesque enquête sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
Jusqu'ici, il n'avait pas parlé, mais Robert Mueller vient de le faire. Il est un peu 50-50, si vous me permettez cette expression. À la fois, il ne pouvait pas, dit-il, inculper le président, et en même temps, il est beaucoup moins catégorique sur les tentatives d'obstruction à la justice.
Thank you for being here.
Oui, le voici qui parle enfin, Robert Mueller, pour la première fois après 22 mois d'investigation, une courte déclaration de 9 minutes durant lesquelles le procureur spécial indépendant a repris les conclusions de son rapport rendu fin mars. Oui, les Russes ont à de multiples reprises tenté d'interférer dans l'élection présidentielle de 2016. Non, il n'y a pas eu de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. En revanche, effectivement, sur les tentatives d'obstruction à la justice, Robert Mueller dit ceci.
Si nous avions eu des preuves suffisantes que le président n'avait pas commis de crime, nous l'aurions dit. Un président en exercice ne peut pas être inculpé pour un crime fédéral. C'est anticonstitutionnel. Même si les charges retenues contre lui étaient restées confidentielles, c'est interdit. Inculper le président n'était pas une option légale, nous n'avons pas pu l'envisager.
Autrement dit, Sébastien, le procureur spécial ne pouvait pas, selon les règles du département américain de la justice, inculper Trump. Robert Mueller dit qu'il ne parlera plus et qu'il ferme ses investigations. Désormais, les démocrates n'ont plus qu'une seule option s'ils veulent que le président réponde de ses soupçons d'entrave à la justice. Eh bien, c'est passer par le Congrès et entamer une procédure de destitution qui n'a, en vérité, quasiment aucune chance d'aboutir.
Et maintenant que Mueller a parlé, que dit Trump ?
Alors, réaction immédiate. Comme souvent sur Twitter, pas assez de preuves. Dans notre pays, une personne est considérée comme innocente dès lors qu'elle n'est pas coupable. L'affaire est close, écrit le président américain.
Grégory Phillips en direct de Washington. Merci Grégory. Les procès de djihadistes français en Irak sont équitables. C'est le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian qui l'a dit tout à l'heure à l'Assemblée. Ils sont désormais 7 condamnés à mort à Bagdad pour avoir rejoint le groupe État islamique. Emmanuel Macron promet que la France fera tout pour leur éviter la peine capitale.
Nous avons été clairs depuis le début, comme d'ailleurs nos alliés au sein de la coalition, sur le fait que nous reconnaissons la souveraineté irakienne, sa justice, et que pour les djihadistes qui sont incarcérés, ils sont jugés sur place pour les crimes qu'ils ont commis sur place. Il ne m'appartient pas de qualifier aujourd'hui le fonctionnement de la justice irakienne. Par contre, comme nos alliés qui ont aboli la peine de mort, il est clair que pour nos ressortissants, pour lesquels la peine de mort sera prononcée, nous demandons à ce qu'elle soit commuée en prison à perpétuité ou en une autre peine qui correspond aussi à ce que, dans le cadre de nos accords bilatéraux, nous pouvons reconnaître.
Emmanuel Macron au micro de Nathanaël Charbonnier. Quant aux défenseurs des droits, il lance un ultimatum sur les enfants de djihadistes. Jacques Toubon parle de traitements inhumains subis par ses enfants et leur mère dans les camps en Syrie. Il demande à la France de les faire cesser et il attend une réponse dans un délai d'un mois. Une coalition ou de nouvelles élections, c'est l'équation en Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a plus que 4 heures et demie pour former un nouveau gouvernement avec ses amis de la droite. Les discussions ne donnent rien depuis les législatives d'avril. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Sébastien.
Et ses alliés pourraient donc voter la dissolution du Parlement avec un retour aux urnes en septembre.
17 ans précisément, les choses sont très avancées. Le blocage est sérieux, l'incertitude pour l'instant totale sur la capacité du Premier ministre à agréger une coalition. Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à résoudre les contradictions de ses partenaires. L'ultranationaliste laïque Avigdor Lieberman se heurte aux religieux, les ultra-orthodoxes. Il en fait une question de principe. Il refuse pour l'instant de siéger, soupçonné de vouloir se refaire une carrure politique après des élections difficiles pour son parti. Ces dernières heures, le ton est monté avec le parti du Premier ministre. Et tout à l'heure, Benjamin Netanyahou a joué une carte un peu désespérée. Il a proposé de réorienter sa majorité en distribuant des postes au parti travailliste qui sort à genoux de ces dernières élections. L'offre pour l'instant n'a pas prise. Le compte à rebours reste enclenché. Les ultra-orthodoxes discutent. Le Likoud pense avoir une majorité pour dissoudre la Knesset en cas d'échec du Premier ministre. C'est une manœuvre pour tenir le président de l'État à l'écart du jeu politique pour éviter qu'un autre leader politique ne soit désigné pour tenter sa chance autour de cette difficile coalition.
Étienne Monin en direct de Jérusalem et pardon pour le petit problème de connexion au début de votre intervention. C'était son argument massu avant le référendum sur le Brexit, écrit même sur son bus de campagne. Faire partie de l'Union coûte chaque semaine 350 millions de livres à la Grande-Bretagne. Boris Johnson est accusé de mensonge avant et après le référendum de juin 2016. Et l'ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui candidat à la succession de Theresa May, sera jugé en procès. Le Louvre à Abu Dhabi utilise-t-il la marque Louvre au détriment du musée français? En tout cas, d'après le Canard enchaîné, la Cour des comptes dénonce le non-respect de certains accords. Le Louvre dément. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Éclairez-nous dans cette histoire de gros sous pas très simple.
Alors tout d'abord, le Canard enchaîné fait état d'un courrier de l'ancien procureur général de la Cour des comptes qui vient de partir à la retraite. Ce n'est donc pas un rapport de la Cour des comptes. Gilles Joannet montre du doigt le contrat concernant en particulier les objets dérivés comme les mugs, les posters. Ce contrat aurait établi une redevance de minimum 8% et les Émiriens auraient transformé cette redevance en maximum 8%.
Ce que dément le Louvre à Paris.
Oui, cet après-midi, le Louvre affirme que cette redevance pour les produits dérivés est bien de 8% minimum et qu'elle est respectée. Ensuite, l'ancien procureur s'interroge sur l'utilisation de la marque Louvre, en particulier sur les avions de la compagnie aérienne nationale Etihad sans l'autorisation du Louvre et qui ne lui aurait donc rien rapporté. Normal, répond le Louvre, puisque le Louvre à Abu Dhabi a acheté des espaces publicitaires sur les avions et il n'a donc rien gagné sur cette opération. Le président du Louvre a été reçu récemment par la Cour des comptes, qui doit remettre prochainement un rapport. Ça devrait peut-être permettre de ne pas s'ensabler dans les comptes financiers et diplomatiques du Louvre à Abu Dhabi.
Isabelle Pasquier, plusieurs antennes de nos amis de France Bleu perturbées aujourd'hui, journalistes, animateurs et techniciens proteste contre le projet de diffusion des matinales radio sur les stations locales de France 3, la télévision. Le tennis à Roland-Garros, toujours avec Fabrice Abgral. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Nadal et Federer sont au troisième tour, tranquille. Et côté français, beaucoup de chutes, notamment Tsonga et Gasquet. Ça passe en revanche pour Mahut et pour le jeune Corentin Moutet.
En effet, Nicolas Mahut tout d'abord, le vétéran âgé de 37 ans, l'Angevin, a réalisé un nouvel exploit après avoir éliminé l'Italien Marco Cecchinato, vous savez, le demi-finaliste de l'an passé. Eh bien, Nicolas Mahut a écarté aujourd'hui de sa route l'Allemand Philippe Kohlschreiber, 54e joueur mondial en 3-7. C'est la troisième fois de sa carrière que l'Angevin se hisse au troisième tour à Roland-Garros, mais il n'a jamais été plus loin. Nicolas Mahut et vit véritablement une seconde jeunesse ici à Roland-Garros. Nicolas Mahut, croyez-moi, c'est Benjamin Button en ce moment. Plus ça va, plus il rajeunit. En revanche, un qui est très très jeune, c'est Corentin Moutet, âgé de 20 ans, 110e mondial. Il est présenté comme l'avenir du tennis français. Eh bien, le natif de Neuilly a réussi l'exploit d'éjecter l'Argentin Guido Pella, 23e joueur mondial en 4-7. Corentin Moutet se hisse pour la première fois au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem. À 20 ans et un mois, Corentin Moutet est le plus jeune joueur français à atteindre le troisième tour en Grand Chelem depuis Gaël Monfils à Roland-Garros en 2006. Et puis sachez que Nicolas Mahut est tout simplement le quatrième joueur âgé de plus de 37 ans à se hisser au troisième tour en Grand Chelem, après notamment Jimmy Connors et Roger Federer.
Les statistiques et toute l'histoire du tennis. Merci Fabrice, à demain en direct de Roland-Garros. On termine avec ce dîner de tout le foot français ce soir à Clairefontaine. Les Bleus ES, les Bleus S et les Bleuets, les moins de 20 ans. Toutes et tous, Cédric Guillou en préparation.
Pardon ? C'est ton sur ton.
C'est ton sur ton, oui. Ils sont tous en préparation pour des compétitions importantes.
Le hasard du calendrier ne l'avait encore jamais permis. Réunir trois sélections en même temps à Clairefontaine. La Fédération française de football a donc profité de l'occasion pour proposer un dîner commun. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, l'a tout de suite validé.
Ça a plus une valeur symbolique. On va faire en sorte de se retrouver pour partager un moment de convivialité ce soir ensemble. Les joueurs se connaissent, les staffs aussi, donc c'est un petit clin d'œil et voilà, c'est un moment de convivialité.
Les tables seront mixées afin de permettre aux joueuses et aux joueurs de l'équipe de France de discuter. La tricolore Eve Périssé sait déjà où elle veut être placée.
J'aimerais bien être à côté d'Antoine Griezmann parce que c'est vrai que je me retrouve un peu en lui, notamment dans le domaine hors foot où il aime bien plaisanter, bien taquiner et c'est vrai que je suis pas mal là-dessus moi aussi.
Les filles de Corinne Diacre seront les premières des trois sélections à quitter Clairefontaine. Elles partiront vendredi à Créteil afin de disputer un dernier match de préparation contre la Chine, une semaine avant le début de la Coupe du Monde féminine.
Et puis après leur premier match dans cette Coupe du Monde, ce sera le 7 juin au Parc des Princes contre la Corée du Sud. Vous trouverez sur franceinter.fr le portrait de la capitaine Amandine Henry.
Merci beaucoup Sébastien Pao, on se retrouve demain bien sûr. Restez avec nous, c'est le téléphone sonne dans un instant. Ne bougez pas, ne respirez plus.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas, nuageux sur le nord, mais tendance à l'amélioration.
Oui, la perturbation faiblement pluvieuse qui a abordé le nord-ouest cet après-midi va progressivement s'étendre jusqu'au Grand Est d'ici à demain avant de s'évacuer l'après-midi. Après un début de journée maussade, les nuages seront de moins en moins compacts au nord de la Loire et quelques éclaircies arriveront même à se dessiner demain après-midi de la Bretagne et la Normandie à l'Île-de-France et au centre-Val de Loire jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. Plus au sud, le temps sera encore plus lumineux et les nuages encore présents en matinée vont se faire plus discrets l'après-midi. Au sud de la Garonne, en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, le ciel sera même quasiment tout bleu dès le matin. On notera juste quelques développements de nuages sur le relief corse pouvant aller jusqu'à donner une averse.
Et de plus en plus de douceur.
Oui, les maximales seront en hausse demain, variant entre 17 et 28 degrés avec 20 degrés pour Mulhouse et Lille, 22 degrés à Paris, Lyon, Tours, Rennes et Limoges, 26 degrés à Bordeaux et 27 degrés à Nîmes. Et comme on est à la veille d'un long week-end, on va se projeter jusqu'à la fin de semaine et on vous annonce quand même encore plus de soleil et encore plus de chaleur. Pour ce long week-end, dès samedi, les températures vont même s'envoler avec des pointes à plus de 30 degrés sur la moitié sud. La barre des 30 degrés sera aussi dépassée sur la moitié nord dimanche.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup. Vous pouvez respirer maintenant.